Vous écoutez
RMC.
Jeudi 2 juillet,
l'info sur RMC.
Il est pratiquement 6h. Merci d'être là. Avec nous, Céline Kallmann, les infos. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Didier Raoult a-t-il menti ? La PHP accuse le professeur de faux témoignages devant les députés de la commission d'enquête sur le Covid-19. Aux États-Unis, les courbes s'affolent à nouveau. Plus de 50 000 nouveaux cas en 24 heures. Bars, cinéma, musées ferment quasiment partout en Californie. Et puis en France, les gérants de boîtes de nuit comptent les jours. Ils espèrent ouvrir le 10 juillet. Bienvenue sur RMC. Pendant 3 heures, le 24 juin dernier, le professeur Raoult était entendu par la commission d'enquête de l'Assemblée sur le coronavirus. Une semaine plus tard, la PHP contre-attaque et accuse le professeur de faux témoignages. Martin Hirsch a adressé une lettre au président de l'Assemblée, Richard Ferrand, dénonçant les propos de l'infectiologue sur les taux de décès de malades en réanimation, mais aussi sur un patient chinois de 80 ans hospitalisé à Paris fin janvier, Paul Barcelone.
Ces accusations relèvent d'abord d'une querelle de chiffres. Devant les députés, Didier Raoult avance une comparaison entre le taux de décès en réanimation dans les hôpitaux à Paris et à Marseille.
La mortalité dans les réanimations ici est de 43%. Chez nous, elle est de 16%.
L'entourage du professeur Raoult dit s'appuyer sur un rapport de la cellule de crise de la PHP en date du 14 avril. Mais nous n'avons aucune donnée chiffrée, se défend Martin Hirsch. Le directeur de la PHP met aussi en cause les propos de Didier Raoult sur la prise en charge d'un patient chinois, premier mort du Covid-19 officiellement enregistré en Europe.
Un monsieur chinois qui s'est présenté à la pitié salpêtrière. Il avait de la fièvre, il a 80 ans, il revenait de Chine. Il n'a pas été testé. Parce que Santé publique avait dit qu'il faut tester que les gens de Wuhan qui ont de la fièvre et de la toux. Il est rentré chez lui, il est revenu 7 jours après avoir contaminé sa fille. Et il est venu mourir dans un hôpital dans lequel on lui a donné du remdesivir.
Sauf que pour le directeur de la PHP, ce patient n'a jamais été renvoyé chez lui. Alors si le faux témoignage était avéré, Didier Raoult risquerait en théorie jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Hier, les deux ex-ministres de la Santé, Marisol Touraine, Roselyne Bachelot, ont d'ailleurs leur tour été auditionnées. Roselyne Bachelot qui n'a pas voulu accabler le gouvernement, mais plutôt les professionnels de santé et les élus locaux. Écoutez.
Le problème, c'est que nous avons une société qui, sans doute, pratique trop la gestion ascendante et descendante des crises. J'ai entendu un représentant d'un syndicat de médecins dire « Nous n'avions pas de masque dans nos cabinets, mais enfin, des médecins qui n'ont pas de masque dans leur cabinet, qui se constituent pas un stock. Qu'est-ce que c'est que cette médecine ? On attend que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques ? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé ? Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays. »
Toujours très direct, Roselyne Bachelot. Ce matin, c'est Xavier Bertrand qui sera entendu. Il a été aux manettes de la santé sous Nicolas Sarkozy entre 2010 et 2012. La France a enregistré 18 nouveaux décès ces dernières 24 heures dans les hôpitaux. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser, 582 malades. Le virus continue de circuler. Toutefois, 304 foyers de contamination ont été enregistrés ces deux derniers mois. Aux États-Unis, comme un retour en arrière, plus de 50 000 nouveaux cas en une seule journée. Un nouveau confinement dans quasiment toute la Californie. Près de 40 millions d'habitants se voient à nouveau privés de ses bars, restaurants, cinémas, musées, fermés donc pour au moins 3 semaines. Marion Fournet.
Des gestes barrières pas vraiment respectés, peu ou pas de masques. Dans les rues d'Orlando, en Floride, Laure, une expatriée française, observe un relâchement ces dernières semaines. De quoi expliquer en partie les nouvelles contaminations.
On a un gouverneur qui donne un peu le choix aux gens, qui n'impose pas un masque obligatoire. Les bars ont fermé suite au pic de vendredi, puis ont réouvert. Puis enfermé à nouveau.
Selon elle, la position ambiguë de Donald Trump vis-à-vis du port du masque crée la confusion chez les Américains. En effet, depuis le début de la crise, le président n'a jamais été vu en public avec un masque sur le visage, même s'il affirme aujourd'hui qu'il n'aurait aucun mal à le faire.
Je n'aurais aucun problème à porter un masque. Je pense que les masques sont une bonne chose. Si j'étais dans une situation de proximité avec des gens, eh bien j'en mettrais. Mais ce n'est pas le cas, puisque toutes les personnes que je rencontre sont testées à l'avance.
Et malgré la situation actuelle, Donald Trump se montre confiant.
Je pense que nous allons être très bons avec le coronavirus et qu'à un moment, cela va en quelque sorte simplement disparaître. Je pense aussi que nous allons avoir un vaccin très bientôt.
Des propos qu'il avait déjà tenus en février. Depuis, les États-Unis sont devenus le pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, avec plus de 128 000 décès.
Et au Brésil, le cap des 60 000 morts a été franchi. Ils sont les premiers à avoir fermé et seront les derniers à rouvrir. Les gérants des discothèques comptent les nuits avant de pouvoir à nouveau accueillir les clients. Une date a été évoquée le 10 juillet prochain. C'est bientôt. Les syndicats des gérants ont été reçus hier par des membres du gouvernement, Benjamin Pelsi.
Si les boîtes de nuit ouvrent cet été, ce devrait être avec une piste de danse aménagée. Des tables vont y faire leur apparition. Les explications de Jean Roch, le propriétaire du VIP Room à Saint-Tropez. Il était présent à la réunion interministérielle.
Ce que souhaite le gouvernement, c'est que les groupes de danseurs soient chacun sur leur table pour éviter que tout le monde se côtoie sur le dance floor. On est tellement dans l'urgence d'ouvrir que, évidemment, on se pliera aux recommandations du gouvernement et des consignes sanitaires.
Mais toutes les boîtes de nuit pourront-elles mettre en place ces nouvelles règles sanitaires ?
Dans des conditions comme ça, moi, je ne travaille pas.
Patrick Bonnefond est le propriétaire d'une discothèque dans le centre d'Orléans.
Si vous avez une piste de danse comme moi qui fait 100 ou 150 mètres carrés, il va falloir que j'achète des tables et des chaises pour pouvoir meubler cette discothèque. Et aujourd'hui, la trésorerie des patrons de boîtes, je peux vous dire qu'elle est vraiment en berne. Vous imaginez la sécurité s'il y avait quelqu'un à extraire, parce que dans une discothèque, il peut y avoir un problème. Comment on fait ? C'est ingérable.
L'éventuelle réouverture des boîtes de nuit le 10 juillet sera décidée en début de semaine prochaine lors d'un conseil de défense sanitaire.
Le traiteur Fauchon placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny. Les dettes du célèbre traiteur sont estimées à 2,3 millions d'euros. Y aura-t-il un repreneur pour sauver Camailleux ? Cette offre dont 5 partiels ont été présentées devant le tribunal de commerce de Lille. Audience finale le 24 juillet. Pour trouver, il faut chercher. L'État a récupéré 12 millions d'euros en 2019 grâce à la lutte contre la fraude fiscale, une année record annoncée hier par le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. Parmi les infos de la nuit, les députés ont voté hier soir en commission la suppression de toute discrimination envers les homosexuels qui donnent leur sang. Dans le texte, la période d'abstinence qu'ils devaient respecter a été supprimée. Elle était jusqu'ici de 4 mois. Et puis Vladimir Poutine potentiellement au pouvoir jusqu'en 2036, l'année de ses 84 ans. Les Russes ont validé hier une vaste révision constitutionnelle par référendum à 77%. Êtes-vous la même personne lorsque vous conduisez ? Visiblement non. Une récente étude révèle qu'un conducteur sur 5 admet ne pas se reconnaître lorsqu'il est au volant. Florence Donjon l'a constaté pour RMC dans les rues de Lyon.
Ces klaxons intempestifs, Olivier n'y fait plus attention au volant de son taxi.
Vous voyez là par exemple, je suis en train de me faire doubler par la droite par un vélo, c'est interdit.
Les incivilités des automobilistes, ce chauffeur les côtoie quotidiennement depuis 2012.
Je me fais insulter tous les jours. Hein. Si on devait descendre à chaque fois pour se bagarrer, je serais en garde à vue tous les jours. Hein.
Et pour cause, un conducteur sur 5 avoue ne plus vraiment être le même lorsqu'il est au volant et s'estime plus nerveux que d'ordinaire.
On est tous un peu schizo. Vous prenez la personne la plus gentille du monde, ça devient fou au volant. Le sentiment de sécurité dans une voiture protégée.
Ce sentiment de sécurité, Alix concède le ressentir dans son véhicule et comme plus de la moitié des Français, il lui arrive d'avoir un langage fleuri.
C'est rapide, on repart très vite, donc on ne croisera jamais la personne. Ça a un moment d'énervement, ça défoule, ça évacue.
Des comportements préjudiciables à la sécurité, selon Bernadette Moreau, déléguée générale à la Fondation Vinci Autoroute.
Toutes ces incivilités, bien sûr, vont avoir pour effet un manque de vigilance de la part des conducteurs et là, ça va générer des risques.
Enfin, près de 9 Français sur 10 indiquent avoir déjà eu peur du comportement agressif d'un autre conducteur.
Bon.
Voilà. Vous conduisez... Ouais.
Je conduis vite, d'abord.
Ah bon ?
C'est au passé, non ?
Là, je conduis plus, j'ai plus de permis. Donc, je conduis plus, mais je vais bientôt reconduire, évidemment.
Vous êtes calme ou pas ?
Comment ?
Au volant, vous êtes
calme ?
Ah
oui, oui. Ah non, non, je ne suis pas du genre... Non, non,
j'insulte... Pas de nom d'oiseau ?
J'insulte... Non, non, j'insulte personne au volant. Non, non. Ah. Non, 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 non. On peut, mais c'est un vaste débat. Je pense que je conduis depuis très, très longtemps. J'ai fait des millions de kilomètres. J'étais à une époque de ma vie, je faisais plus de 100 000 kilomètres par an, bien plus de 100 000 kilomètres par an, donc la route je connais, mais non, j'insulte, j'ai jamais insulté personne. Vous avez insulté quelqu'un ?
Oui,
tout l'arbre généalogique des voitures autour,
bah oui.
Mais vitres bien fermées,
ouais,
toujours, évidemment, hein, pour ne pas créer de. Mais ça
va. Dès qu'on voit que ça chauffe un peu dans le véhicule opposé, on fait un petit sourire.
Ah bon, d'accord. Non, moi j'ai jamais eu d'altercation avec un autre conducteur, jamais.
Il paraît qu'on descend de plus en plus de sa voiture pour. Bon. Régler un contentieux avec l'autre.
Bon, allez se battre.
Ça, j'ai déjà vu.
Témoignez, hein, allez-y, hein, si ça vous est arrivé. Mais personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais bon, ça peut, on ne sait jamais. Hein, on sait jamais. Bon, allez, il est 6h09. Merci, toute l'équipe est réunie. Vous l'avez compris, 6h09, 32-16. La touche 5, c'est tout à l'heure pour la machine à café. On ne va pas la faire tout de suite. Non, c'est pour tout à l'heure. 32-16, c'est notre lien. Il était surpris, Quentin. Il s'est dit, ça y est,
alors,
voilà,
si vous voulez,
il perd les pédales. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Le matin, évidemment, évidemment. Vous savez combien nous sommes heureux de vous avoir là. Pas d'auditeurs pour l'instant, mais ils vont arriver, j'en suis certain. Il est 6h09. Bien, de quoi allons-nous parler ? Des pétards. Les pétards bientôt interdits à la vente à Paris et en petite couronne. À partir de samedi, l'achat, mais aussi la détention et l'utilisation de gros pétards ou de feux d'artifice seront prohibés. Et ce jusqu'au 15 juillet. Les autorités espèrent éviter des débordements pour la fête nationale. C'est dangereux, vous le savez, une mesure courante à l'approche du 14 juillet, mais qui est mise en place bien plus tôt cette année. Il faut dire que ces engins sont de plus en plus utilisés. Lors d'affrontements avec les forces de l'ordre dans certains quartiers, le reportage Jean-Baptiste Bourgeon.
Depuis deux ans, des déflagrations en série troublent le calme du quartier d'Olivier. Cet habitant de Villeurbanne, près de Lyon, est excédé.
Enfin, ils envoient à peu près 5, 6, voire une dizaine de pétards le soir. C'est vraiment une grosse déflagration. C'est invivable parce que là, il fait chaud. Donc, on vit avec les fenêtres ouvertes et vous êtes tranquillement chez vous. Vous avez un pétard qui pète. Voilà, c'est des choses qui sont invivables.
Patrice Leclerc, le maire de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, interdit chaque année la vente et l'utilisation de pétards à l'approche du 14 juillet pour garantir la sécurité de ses administrés.
Ça limite l'importance de l'utilisation parce que tout le monde ne l'achète pas de manière illégale. Et puis, ça permet aussi à la police de verbaliser des pratiques dangereuses. C'est quand même le danger sur le feu de toiture, les feux de balcon et puis sur les êtres humains quand c'est dirigé vers des êtres humains. Ça peut être très dangereux.
Un danger auquel font face quotidiennement les forces de l'ordre, regrette Yvan Assioma du syndicat de police Alliance.
Ce sont des engins qui sont utilisés de plus en plus tôt avant la fête nationale et surtout, malheureusement, c'est de plus en plus utilisé contre les forces de l'ordre, ce qui entraîne des blessures sur nos collègues, des débuts d'incendie, des dégâts sur les véhicules de police.
Le syndicaliste souhaite une réflexion plus large afin que cette interdiction reste en vigueur toute l'année.
Il est 6h11, mais que reproche-t-on au professeur Didier Raoult? A-t-il dit la vérité lors de son audition à l'Assemblée nationale la semaine dernière? La PHP, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui gère tous les hôpitaux de la région parisienne, hôpitaux publics bien sûr, accuse le professeur Raoult de faux témoignages Quentin Vinet.
Alors, il y a deux passages qui posent problème, selon la PHP, dans les déclarations de Didier Raoult lors de son audition devant les députés de la commission d'enquête sur le Covid-19, c'était effectivement la semaine dernière. Le premier passage concerne les taux de mortalité dans les services de réanimation. Voilà ce que disait le professeur marseillais la semaine dernière.
La proportion, vous voyez, des gens qui sont morts, qui ont moins de 65 ans, à Paris, sur les données que j'ai, de 17%. Je vous rappelle qu'en Europe, elle est de 10%. Donc il s'est passé quelque chose ici sur la prise en charge. La mortalité dans les réanimations ici, dans ce travail, toujours, est de 43%. Chez nous, elle est de 16%. Et c'est les mêmes malades, là, ils sont tous en réa.
Voilà, 43% à Paris, 16% à Marseille. C'est ce que dit Didier Raoult et dans un courrier. Martin Hirsch, patron donc de la PHP, assure que nous n'avons aucune donnée qui place à 43% la mortalité dans les réanimations des hôpitaux parisiens, sans préciser à combien se monte ce taux. L'autre passage qui pose problème concerne le patient chinois de 80 ans, malade du coronavirus fin janvier, qui est mort ensuite. Didier Raoult affirmait la semaine dernière que ce patient s'était présenté à la Pitié-Salpêtrière, qu'il était rentré chez lui, puis qu'il était revenu 7 jours après pour mourir dans un hôpital. Réponse de Martin Hirsch, le seul patient chinois de 80 ans auquel peut faire référence Didier Raoult a été admis le 25 janvier à l'hôpital européen Georges Pompidou avant d'être transféré à Bichat, mais il n'a jamais été renvoyé chez lui. Voilà donc pour la réponse de la PHP. Pourquoi ces précisions des hôpitaux parisiens? Eh bien, il me semble essentiel que les travaux de la commission ne puissent être fondés sur des éléments factuellement faux. Voilà ce que dit Martin Hirsch.
Voilà cette histoire de patient chinois. D'ailleurs, nous allons reprendre, parce qu'il faut dire les faits. Après, chacun jugera. Hein, moi, je ne suis pas là pour juger, mais là pour rapporter des faits. Nous allons reprendre les faits tout à l'heure à 8h10. Je serai avec Alain Ducardonnet pour reprendre les faits, ce qu'a affirmé Didier Raoult, notamment à propos de ce patient chinois de 80 ans, auquel Didier Raoult fait référence. Quel a été son parcours de soins? Eh bien, nous détaillerons tout à l'heure à 8h10, ne ratez pas cela. Il est 6h14, vous êtes sur RMC, vous réagissez. Tiens, Philippe, qui est là, qui est... Bonjour Philippe.
Bonsoir, bonjour.
Vous êtes en Guadeloupe?
Je suis en Guadeloupe, absolument.
Bon,
bienvenue.
Vous dites bonsoir, vous avez raison, parce qu'il est quelle heure là-bas? Il est plus de minuit. Hein.
Il est minuit, oui.
Il est minuit. Vous êtes en Guadeloupe depuis 12 ans, hein, Philippe?
C'est ça.
Bon.
C'est ça, même, oui.
Alors, vous rappelez que la Guadeloupe est un endroit paradisiaque pour les vacances.
Mais c'est plus que paradisiaque, c'est... C'est un endroit génial, quoi.
Oui, oui. Est-ce qu'il va y avoir des vacanciers chez vous cet été?
Les avions commencent à revenir maintenant. Oui. On espère en voir un petit peu.
Oui. Voyez. Vous avez des réservations?
Des réservations de...
Bah, je sais pas, des réservations de maisons, des réservations dans des campings, dans des hôtels.
Il y a les
campings, il y en a pas beaucoup. Ouais.
Il y en a pas du tout même.
Il y en a même pas du tout. Oui. Oui.
Non, les hôtels commencent à réouvrir un petit peu, mais c'est pas encore ça. Et après, ce sera surtout les gens, les Guadeloupéens qui reviennent voir la famille pour les vacances.
Voilà, pour les vacances. Ce sont les Guadeloupéens que vous attendez avant tout, hein, Philippe.
Et tous les ans, c'est eux qui viennent en premier, quoi.
Oui, bon. Comment ça se passe dans les restaurants? Comment ça se passe en Guadeloupe aujourd'hui?
Les restaurants, c'est très très calme. Régulièrement, je regarde sur Internet les ventes aux enchères. Il y a de plus en plus d'établissements qui ferment et qui sont vendus aux enchères.
Qui sont vendus aux enchères. Oui, c'est catastrophique. La crise sanitaire sur le terrain économique est catastrophique. La Guadeloupe, rappelons-le, vit beaucoup du tourisme.
C'est la partie essentielle, oui.
Eh oui.
Il y a très peu d'industrie ici en Guadeloupe. Et à part le sucre et le rhum, on a vite fait le tour. Hein.
Bien sûr, Philippe. Philippe, vous écoutez RMC tous les matins? Les matins, tous les soirs, quoi. Peut-être que vous regardez.
Non, j'ai pas l'opportunité, mais j'écoute, oui.
Bon. La vie est belle en Guadeloupe?
La vie est très belle.
tellement beau.
Ici, on a l'habitude de dire qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est la température de l'eau pour aller se baigner et le prix du kilo de langouste.
Oui, évidemment. Ouais. Mais évidemment, on n'a pas à Paris les mêmes...
priorités.
Non, on ne peut pas dire la température de l'eau et le kilo de langouste.
Voilà.
Bon, écoutez, Philippe. Eh ben, merci, Philippe. Si jamais nous partons pour la Guadeloupe un jour, nous passons et nous vous appelons. D'accord.
Avec plaisir.
Merci Philippe d'être avec nous le matin. Vous voyez combien c'est agréable cette émission et combien c'est agréable de vous croiser comme ça, furtivement, mais de vous croiser. Il est 6h17. Allez, dans un instant, je suis avec Didier Nicole qui est le coprésident du syndicat des cidriers. Est-ce que vous savez que des cidreries aussi, on peut dire, mais celui qui fabrique le cidre est un cidrier. Cidrier. Eh bien, des fabricants de cidre vont transformer leur cidre en alcool. Ben oui, et non seulement en alcool, non, qu'est-ce que je dis en alcool?
En carburant.
On
va pouvoir rouler au cidre, c'est ça?
Oui, on va pouvoir rouler au cidre, mais vous savez qu'on roule avec de l'alcool aussi.
C'est vrai.
Hein, on peut rouler avec de l'alcool. Non,
Charles. Avec modération.
Oui, attention. Ah,
d'accord.
Pas trop vite.
Allez, Didier Nicole dans un instant. Vous réagissez 3216 RMC.fr.
RMC. RMC, 6h-9h.
Bourdin direct. Vous buvez du cidre?
Oui,
oui, vous aimez ça?
Avec une petite crêpe.
Bon, d'accord. Didier Nicole, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Vous êtes coprésident du syndicat des cidreries de France. Vous dirigez avec vos deux frères une cidrerie à Surzur. Surzur, oui. C'est dans le Morbihan, bien sûr.
Près du Morbihan.
Dites-moi, avec la crise sanitaire, vous avez souffert là, non?
Eh oui, parce qu'on travaille essentiellement avec les crêperies, restaurants et les bars.
Oui.
Oui, on travaille à peu près à 60%, en vente directe à 30%.
En 30% en vente directe, vous faites du cidre et du jus de pomme. Entreprise familiale créée il y a trois générations en 1928.
Exactement.
Je sais tout. Didier Nicole, moins 80% de chiffre d'affaires donc pour votre cidrerie entre mi-mars et mi-mai. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez un excédent et vous produisez chaque année, je crois, 800 000 bouteilles. Hein, c'est cela, Didier?
Oui, 800 000 bouteilles de jus de pomme et de cidre. Hein,
ouais. Votre cidre va être transformé en bioénergie, en carburant?
Alors donc on a fait une proposition, on a fait une demande au ministre de l'Agriculture pour dégager l'excédent, puis surtout faire de la place dans notre cuverie parce que la prochaine récolte arrive dans 3 mois.
Oui.
Et donc la mévente donc fait un excédent de on demandait au ministre 200 000 hectos à dégager, donc le ministre a accepté pour 100 000 hectos.
Oui.
Et donc, au début, on parlait de distillation, mais comme les distillations d'État sont plutôt dans les zones viticoles, elles sont saturées parce qu'elles distillent aussi du vin. Donc, on a proposé du bioéthanol en méthanisation.
Voilà, vous méthanisez, c'est un circuit court qui a été choisi. Hein ? Méthaniser, ça veut dire ? Expliquez-nous.
Alors donc des unités de méthanisation, on en a tous à proximité. Oui. Donc souvent ce sont des agriculteurs qui ont installé ce genre de méthanisation pour justement avec les déchets verts, les fumiers, les litiers.
La méthanisation, ça se passe comment ?
Alors donc c'est
pour le cidre.
Non, mais il n'y a pas que du cidre. On mélange les végétaux, le lisier et du cidre.
Lisier et le cidre, d'accord.
Voilà. Et pour faire du gaz, alors le gaz, après, on en fait, soit on le met directement pour faire le gaz de ville, ou on fait de l'électricité, ou on peut faire aussi du bioéthanol.
Ou on peut faire du bioéthanol, voilà. Eh bien, dites, ça produit une énergie, en quelque sorte. C'est ça.
Voilà, c'est ça.
C'est une énergie. Pour vous, c'est... Parce que le cidre ne se garde pas. Hein, voilà. C'est pas le vin, hein.
Exactement. On parle pas de millésime. Oui. Le cidre se boit dans l'année. Hein, donc, comme il est faiblement alcoolisé, donc il se garde pas très longtemps.
Bon, c'est une solution pour vous. Les surplus de cidre vont être transformés en carburant. J'espère que ça va bien se passer, Didier Nicole, que vous aurez toutes les autorisations pour le faire. Didier Nicole, la production prochaine, comment s'annonce-t-elle?
Justement, elle est prometteuse. Donc voilà, il faut faire la place.
Bien sûr.
Et notre inquiétude aussi, c'est après aussi la clé de répartition entre les cideries pour éliminer l'excédent.
Bon. Didier Nicole, merci. Vous êtes cidrier, hein. On dit cela.
Oui. On est d'accord.
Bon, on est d'accord. Il est 6h25. Merci beaucoup, Didier Nicole. Moi, je tenais à comme ça, à passer un petit coup de fil au cidrier et à lever mon chapeau à ce... Non, mais ça, on n'en parle jamais. Parce qu'un jour, on a parlé de cidre ici, jamais. Eh ben, c'était
moins que de vin, c'est sûr.
Évidemment.
Vos goûts.
Évidemment, 6h25. Allez, trois histoires et trois images avec Charles Magnien.
Oui, et nous allons commencer avec
l'histoire licenciée,
de cette Américaine. Parce que ses enfants faisait trop de bruit. Trop de bruit pendant qu'elle télétravaillait. C'est une histoire qui parle forcément à tous les parents de jeunes enfants qui ont découvert le télétravail pendant le confinement. Elle s'appelle Driss Wallace, jeune maman californienne qui travaille dans la finance. Et elle s'est donc retrouvée confinée avec ses enfants âgés de 4 et 1 an, tout en continuant à travailler à distance, mais régulièrement pendant les réunions en visioconférence, pendant les appels avec ses clients. Évidemment, ses enfants l'interrompent, font du bruit. Bref, sont des enfants, tout simplement, et très vite sont patron lui dit qu'il faut que ça cesse, qu'il faut les faire taire. Ce n'est pas professionnel vis-à-vis des clients, dit son patron. Pourtant, explique cette maman, aucun client ne s'en est plaint. Tout le monde comprend la situation, mais son patron accentue la pression. Il fait exprès de caler des réunions à l'heure du repas des enfants. Et au bout de quelques semaines, la sanction tombe. Driss est licenciée. Elle raconte l'histoire sur Instagram et depuis, elle reçoit du soutien de la part des parents du monde entier. Et elle compte porter l'affaire en justice afin de se battre, dit-elle, pour toutes les mamans qui ont dû subir ça. Et j'ajouterai pour tous les papas.
Alors racontez-nous, ça vous est arrivé, 3216rmc.fr. Allez-y, l'initiative du jour dans la dernière publicité de Disneyland Paris. C'est un homme qui chante « Un jour, mon prince viendra ».
Mais oui, petit clip diffusé sur les réseaux sociaux afin d'annoncer la réouverture du parc. Ce sera le 15 juillet prochain. On y découvre des vues aériennes du château enchanté sur fond de musique de Blanche-Neige. Mais petite révolution, c'est donc un homme qui entonne la chanson.
Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera dans son château.
Disneyland Paris, c'est donc un homme qui attend son prince dans ce clip diffusé sur les réseaux sociaux. Ouais. Disneyland voulait de cette manière clore le mois des fiertés qui se déroulait au mois de juin. L'an dernier, le parc avait organisé une Magical Pride, une fête des fiertés qui n'a pas pu se dérouler cette année pour cause de fermeture. Et il y a donc cette voix d'homme qui chante « Un jour, mon prince viendra ». À lire les commentaires sur les réseaux sociaux, ça ne plaît pas à tout le monde. Hein,
oui, bah, ça j'imagine déjà.
Ça surprend pour le monde.
Oui, ça surprend. D'ailleurs, si vous voulez apporter un commentaire, ce n'est pas compliqué. Ici, 3216rmc.fr, vous avez l'habitude. Dans les Pyrénées-Orientales, des gendarmes appelés pour capturer une panthère qui fait peur à tout le monde. En fait, c'était une peluche.
Oui. Alerte, mardi après-midi à la gendarmerie d'Isle-sur-Tête. Plusieurs témoins appellent pour signaler la présence d'une panthère au bord de la rivière qui traverse le village.
Aïe, aïe.
La suite, ce sont les gendarmes qui la racontent sur Facebook. Un équipage est immédiatement dépêché sur les lieux. Grâce à une parfaite connaissance du terrain et de la faune locale, l'enquête est rondement menée, disent les gendarmes. L'animal sauvage est rapidement localisé et se montre plutôt conciliant au contact des militaires. Et pour cause en lieu et place d'un dangereux félin, c'est donc une peluche que les gendarmes découvrent. Ils posent d'ailleurs assez fièrement avec elle sur Facebook. L'histoire ne dit pas si les gendarmes d'Isle-sur-Tête sont désormais surnommés les brigades du tigre.
On se oh là là,
c'est cadeau.
Ça c'est cadeau, elle est belle. Elle est belle, la panthère noire.
Oui, belle peluche.
Belle peluche. Stéphane est là. Stéphane est à Méry-sur-Oise dans le Val-d'Oise. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour, M. Bourdin.
Ça va bien, Stéphane, le matin, comme ça, avec nous?
Bah oui, hein, depuis des années.
Depuis des années, vous êtes à la radio, à la télé?
Toujours Stéphane. À la radio.
À la radio.
À la radio.
Bon.
Oui.
Bon.
J'avais appelé pour.
Les incivilités sur la route, vous êtes conducteur routier ou...
Oui, je vous avais eu pendant le confinement pour le comportement des gens et.
Oui.
Et depuis 35 ans, oui, les gens. Moi, je suis en région parisienne. Hein.
Vous en avez vu, alors, oui.
Ah, bah, c'est joli. Et ce qui a changé, c'est les femmes aussi.
Oui.
À une époque, c'était assez viril. Et. Mais bon, c'était.
Et aujourd'hui, les insultes viennent aussi bien d'un homme que d'une femme.
Oui. Il faut rester plus calme, comme vous disiez tout à l'heure. Hein. Maintenant, oui. J'ai arrivé à un certain âge où.
Ouais, vous êtes comme moi.
Oui, je me calme.
Ouais,
faut faire attention aux autres et penser
exactement.
À ceux qui peuvent avoir un accident.
Il faut toujours conduire, si j'ai une
main,
pour les autres.
Oui.
Sur la route.
Sauver ceux qui sont
toujours conduire toujours. En faisant attention à ce que va faire l'autre conducteur.
Exactement. Moi, avec mon camion, des gens sauvés, j'en ai plein entre certains qui me doublaient sans voir qu'il y a une voiture qui arrivait, de klaxonner. Voilà, c'est pas de klaxonner celui qui me double, c'est de klaxonner à celui qui est en face de voir ce qui arrive derrière. Quoi. Donc c'est vrai que c'est assez. Heureusement que les voitures sont mieux protégées aujourd'hui et qu'il y a absolument
des retombées mort qu'il y a 30
ans.
Bien sûr.
Voilà. Bon,
bien
bah
sûr.
Écoutez, bon. Ravi de vous avoir eu.
Moi aussi,
pour
Stéphane.
Les dernières semaines encore, monsieur.
Ben voilà. Ben merci, Stéphane. oui, merci. Allez. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Bonne journée, les 6h30. La machine à café 3216, la touche 5, Quentin Vinet.
Et le mot matin par SMS au 73216.
Anaïs Castagnier.
Le gouvernement met la pression sur les entreprises de livraison de repas à domicile pour qu'elles limitent le gaspillage, qu'elles en finissent avec les contenants et les couverts jetables. On sera avec Julia Vernin, cofondatrice de Food Chérie, juste après le journal.
Anne-Sophie Balbir est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Avec ou sans Édouard Philippe, le dilemme d'Emmanuel Macron en vue du remaniement. 57% des Français souhaitent qu'il reste à son poste de Premier ministre. Les consultations du chef de l'État se poursuivent. Didier Raoult, dans le collimateur de l'APHP, le directeur des hôpitaux de Paris, accuse le professeur de faux témoignages. Et puis, qui se cache derrière ces ronds verts tagués un peu partout en France? Visiblement, une organisation proche des milieux complotistes. Plusieurs personnes ont déjà été interpellées. RMC 6h32. Dernière ligne droite avant le remaniement. Emmanuel Macron poursuit aujourd'hui et demain ses consultations. Le grand point d'interrogation toujours, c'est le sort d'Édouard Philippe. Doit-il le garder ou pas comme Premier ministre? Pas évident de trancher, surtout que le chef du gouvernement bénéficie d'une bonne cote de popularité. Selon un sondage Elab pour BFM TV, vous êtes 57% à souhaiter qu'il reste à son poste. Pierrick Bonneau.
Des Français globalement attachés à leur Premier ministre, à l'image de Stéphane.
Moi, je pense que l'intérêt du pays, ce serait qu'il reste. La France, il perdrait sans doute, parce que je pense que c'est quelqu'un qui fait le job, de toute façon.
Dans les rangs de la majorité, on répète que c'est au président de choisir, mais une chose est sûre, selon la députée En Marche, Anne-Laure Cattelot, si Édouard Philippe veut rester, il devra changer de ligne, notamment sur l'écologie.
Il faudra qu'il s'adapte, en tout cas peut-être, à la ligne désirée par le président, et comme le président a dit lui-même qu'il était prêt à changer, il l'a fait, il l'a dit, on a fait pas mal de choses, peut-être pas encore assez, et cette convention citoyenne, elle nous invite à aller plus loin. Donc voilà. Est-ce que Édouard Philippe aura envie d'aller plus loin ? Ça, c'est à lui de le décider.
Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, ne se pose lui qu'une seule question.
Est-ce qu'ils ont un remplaçant ? Est-ce qu'ils ont quelqu'un de mieux à admettre ? Je ne le crois pas. Voilà. Donc je trouve qu'Édouard Philippe est quelqu'un de sérieux. Il l'a montré pendant la crise. Je ne partage pas toute sa politique. Je suis dans son opposition. Mais disons les choses sérieusement. Aujourd'hui, il me paraît l'homme le mieux placé. En plus, il a été brillamment réélu au Havre.
Avec ou sans Édouard Philippe, le chef de l'État devrait dévoiler son choix d'ici la fin de la semaine.
L'Assemblée nationale ne veut plus de discrimination envers les homosexuels qui donnent leur sang. Aujourd'hui, une abstinence sexuelle de 4 mois leur est imposée. Les députés ont voté pour que ce délai soit supprimé dans le cadre de l'examen du projet de loi de bioéthique. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, lui a reçu un courrier signé du directeur de l'APHP à propos de Didier Raoult. Martin Hirsch accuse l'infectiologue marseillais de faux témoignages, notamment sur son estimation des taux de décès de malades en réanimation donnés devant la commission d'enquête sur le Covid le 24 juin dernier. Un taux qui est impossible à évaluer, d'après Antoine Vieillard-Baron, chef du service de réanimation à l'hôpital Ambroise Paré à Paris.
Aujourd'hui, on ne peut pas donner ces chiffres pour une raison extrêmement simple, c'est qu'ils n'ont pas été publiés. Et donc, on n'est pas capable aujourd'hui de donner officiellement une mortalité. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point qui fait que c'est pas très sérieux d'annoncer ce type de chiffres, c'est que l'ensemble des malades n'est pas encore sorti des services de réanimation. Le plus grand nombre, effectivement, en est sorti, mais certains malades sont toujours hospitalisés.
La France a enregistré 18 nouveaux décès liés au Covid-19 en 24 heures dans les hôpitaux. Aux États-Unis, près de 53 000 nouvelles infections ont été recensées en un jour, un niveau record depuis le début de la pandémie. De nombreux États remettent en place des restrictions. La crise sanitaire continue de ravager notre économie. On apprend ce matin que le traiteur Fauchon a été placé en redressement judiciaire. Difficile de se relever avec la pandémie. Des associations ont d'ailleurs décidé de se mobiliser pour accompagner des patrons qui ont dû mettre la clé sous la porte. C'est le cas de l'association 60 000 rebonds. Un reportage que nous vous proposons ce matin dans le cadre de notre opération La France des solutions. Martin Bourdin, Florence Donjon.
Ce bureau juste sous les toits de Marseille va vite devenir un repère pour Franck Lépizera. À cause de la crise sanitaire, ce chef d'entreprise a dû liquider ses 2 sociétés de vente de matériel vinicole.
Depuis le 17 mars, il n'y a rien qui rentre. Donc la seule et unique solution, c'est une liquidation directe.
Alors cet été, 2 ou 3 fois par mois, il viendra ici pour des séances de coaching gratuites grâce à l'association 60 000 rebonds.
Il faut se remettre en selle, il faut repartir, et seul, et je peux vous garantir que c'est compliqué. Et le fait d'avoir une structure complète dans laquelle vous pouvez dire « il m'est arrivé ça, comme ça », vous pouvez le faire que là.
Sa coach, Patricia Brachet, est donc devenue sa nouvelle confidente.
C'est les soutenir, les aider, et puis les faire surtout sortir du ressentiment, c'est prendre de la hauteur, c'est hyper important.
Un autre entrepreneur, un parrain, est là aussi pour l'appuyer. Guillaume Mullier, le président de l'association, y voit un moyen de relancer l'économie.
C'est en effet changer le regard sur l'échec, mais par ailleurs, c'est aussi contribuer à faire une solidarité entrepreneuriale. C'est ce qui permettra aussi de recréer des entrepreneurs, donc des entreprises, donc des emplois.
Depuis le mois de mars, plus de 200 entrepreneurs ont déjà profité de ce dispositif d'accompagnement.
La bonne nouvelle qui donne le sourire au ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. La lutte contre la fraude fiscale a permis à l'État français de récupérer 12 milliards d'euros en 2019. Un nouveau record, même s'il y a encore beaucoup à faire, selon Éric Vernier. Il est chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du blanchiment de capitaux.
Aujourd'hui, on a effectivement un contrôle qui est certainement meilleur qu'il y a 10 ou 15 ans, mais surtout, on a en face aussi une fraude qui augmente, puisque si on regarde les différents chiffres des études que l'on peut avoir chaque année, on est aujourd'hui à peu près à 120 milliards de pertes sèches pour l'État à travers la fraude fiscale et sociale. On était entre 60 et 80 milliards il y a 6-7 ans. Il faut rappeler quand même que si on récupère 12 milliards, il reste quand même 90% dans la poche des fraudeurs chaque année.
Vous en avez peut-être vu en bord de route à l'entrée des villes un peu partout en France, dans le Lot, les Landes, le Tarn-et-Garonne et même en Ille-et-Vilaine. Des ronds verts tagués à la bombe, une organisation complotiste serait à l'origine de ces dégradations. Plusieurs personnes ont été interpellées. Maxime Brandstatter.
Saint-Jour-de-Marenne est une petite commune des Landes. En fin de semaine dernière, la ville découvre des ronds verts tagués à la bombe sur des arbres, des panneaux et même des bâtiments publics. Ses habitants ne comprennent pas.
À votre avis, ça veut dire quoi ?
J'en sais rien du tout.
Ces ronds sont en fait le signe du Conseil National de Transition, une organisation proche des milieux complotistes qui revendique le pouvoir en France, comme l'explique Claire, 54 ans, l'une de ses membres.
Le but, c'est effectivement de faire connaître aux citoyens français que... ils peuvent rejoindre d'autres citoyens pour gérer la France ensemble.
Un groupe qui prospère sur les réseaux sociaux, analyse Rudi Reichstadt, fondateur de l'Observatoire du conspirationnisme.
C'est un groupuscule issu de la partie la plus radicale, la plus extrémiste de ce qu'on appelle la complosphère, c'est-à-dire essentiellement des gens d'extrême droite qui fantasment sur toutes sortes de complots, complots des Illuminati, complots maçonniques, etc.
Ces ronds verts restent des dégradations de bâtiments publics et les auteurs risquent jusqu'à 3750 euros d'amende.
Les courses, Anaïs, c'est à Longchamp.
13h50, Anne-Sophie, favorite numéro 3, Les Vertus, outsider numéro 6, Testa.
Les boîtes de nuit, on en a beaucoup parlé ici, vous vous souvenez. On a appelé, on a eu Jean Roc, on a eu... Apparemment, les propriétaires de discothèques semblent peut-être se diriger vers une solution. Je pense qu'ils vont pouvoir ouvrir, mais sans piste de danse. Les propriétaires de discothèques veulent d'ailleurs, ils sont prêts à rouvrir sans piste de danse. Thierry Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous, vous êtes président de la branche nuit de l'UMI, le principal syndicat de l'hôtellerie-restauration, propriétaire de deux discothèques à Lyon. Il est vrai que depuis des semaines, vous vous battez, et ici on vous a accompagné, vous battez pour pouvoir ouvrir. Tout le monde a ouvert, sauf vous. Vous êtes pratiquement les seuls.
C'est vrai.
Vous êtes pratiquement les seuls, Thierry Fontaine. Et vous proposez d'ouvrir, de rouvrir vos établissements, mais sans piste de danse. C'est possible de rouvrir une discothèque sans piste de danse ?
Alors, oui, on pense que c'est possible. C'est pas en effet l'ADN de nos établissements.
Oui.
Notre but principal, c'est en effet la danse, hein, c'est pas de vendre autre chose. On a eu un rendez-vous avec la santé il y a 2 jours et on a compris que le conseil scientifique, ce qui les dérangeait dans la discothèque, c'était la piste de danse, où il y avait une mixité de clientèle, des gens qui venaient de partout, qui ne se connaissaient pas, qui se retrouvaient sur cette piste, finalement, tous en commun, sans se connaître, avec une possible contamination, et repartaient chacun dans leur coin et pouvaient devenir des foyers épidémiques. Donc ça, on a compris que c'était ce point bloquant. Donc le but, c'était d'arriver à sauver les saisonniers, parce que les saisonniers, si au 10 juillet, ils n'ouvrent pas, on peut les rayer définitivement du paysage nocturne français. C'est une certitude.
Toutes les discothèques vont fermer, pratiquement toutes, si vous n'ouvrez pas, là, pour l'été.
Alors, toutes les discothèques saisonnières, si elles font pas cette saison, elles auront 18 mois sans travail. Dites-moi, quelle entreprise en France ou dans le monde peut vivre sans travailler 18 mois ? C'est pas possible.
Mais bien sûr. Bien sûr. Donc vous avancez, vous avez eu des contacts réguliers. Évidemment, j'espère que vous allez pouvoir faire avancer votre dossier, hein, Thierry Fontaine. J'espère
on a eu plus que des contacts. Hein.
Oui. Bon, ça avance bien alors.
Alors ça avance très bien. On a encore la dernière réunion avec la santé aujourd'hui, où on doit finaliser. On a eu 4 ministres hier. Aujourd'hui, la santé, on finalise tout ça. La danse sera autorisée chez nous. Hein. Faut bien que ça se sache. On rouvrira pas en bar. On supprimera juste la piste de danse et les gens pourront danser, mais par groupe qui sont venus ensemble, un peu partout dans l'établissement. Du coup, il y aura plus de contamination croisée. C'est ça le but. Et ça, c'est dans un premier temps. On veut pas transformer une discothèque à vie sur ce schéma. Ce qu'on souhaite, c'est d'arriver déjà à ouvrir la porte, ce qui est pas mal. Une fois que la porte est ouverte, on verra en fonction de l'évolution de l'épidémie en France comment le retour à la normale peut se faire le plus vite possible. Donc, il ne faut pas que nos exploitants s'inquiètent en se disant « ils transforment de discothèque, on ne pourra pas ». Non, non. Le but, c'est de commencer une première phase avec le gouvernement, de voir qu'on peut nous faire confiance. Ce qu'on ne veut pas, c'est dégrader une situation sanitaire en France. Ce qu'on veut, c'est aider à l'améliorer. Parce que ce qu'on voit un petit peu de partout aujourd'hui dans le pays, tous les journaux le voient, tout le monde le filme, c'est que c'est partout, les fêtes privées, les jeunes s'alcoolisent, mais plus que de raison, c'est de l'inconscience de laisser ça comme ça sans les professionnels pour encadrer la fête.
Mais ça, je suis complètement d'accord avec vous, Thierry Fontaine, vous avez entièrement raison. Le secteur, mais évidemment, je vous appuie depuis le début, parce que ces fêtes sauvages qui sont organisées partout, c'est plus dangereux que d'aller dans une discothèque. Ça me paraît logique.
Où là,
c'est organisé et c'est encadré. Évidemment, il y a 1600 établissements en France, il faut le savoir. Les discothèques espagnoles ont rouvert le 8 juin. C'est vrai que... La Suisse aussi. Oui.
Bien sûr.
Et ça se passe bien.
La Suisse.
Et ça se passe bien.
Écoutez, pour l'instant, oui, il n'y a pas de foyer épidémique. Il y a eu un soupçon de Covid en Suisse dans une discothèque. Oui. Ça leur a permis de repérer les cas contacts et de mettre 300 personnes bouclées à la maison chez eux. Mais c'est quand même mieux de pouvoir faire ça, d'identifier, de tracer... et de pouvoir confiner plutôt qu'avoir 300 personnes susceptibles d'être contaminées partout en France sans savoir où ils sont. Avec les fêtes sauvages, aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Donc, une reprise épidémique fort possible.
Eh bien, je suis très content, Thierry Fontaine. J'espère que tout va bien se passer lors de vos dernières réunions, que vous allez pouvoir travailler, parce qu'il est totalement anormal, mais je le dis, que les patrons que les discothèques n'ouvrent pas, que les patrons de discothèques soient privés de leur entreprise, en quelque sorte. Hein, entreprise qui...
Et nos employés.
Et de vos employés. Et de vos employés, évidemment. Entreprises qui vont à la faillite si on n'ouvre pas. Hein, c'est clair. Merci beaucoup.
Exactement.
Merci beaucoup, Jean-Jacques Bourdin. Il est 6h44. Allez, dans un instant, nous changeons totalement de sujet. Je suis avec Julia Vernin, qui est cofondatrice de Food Chéri. À tout de suite.
RMC.
RMC, 6h-9h,
Bourdin Direct.
Julia Vernin est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de Food Chéri. Alors Food Chéri, rappelons, 180 salariés, 5000 commandes par jour en Ile-de-France, à Strasbourg, à Nantes, Lille, Toulouse, Bordeaux, c'est ça ?
C'est ça.
Je dis pas de bêtises ?
C'est ça.
Food Chéri, c'est-à-dire que vous livrez des repas sur le lieu de travail, quoi, essentiellement.
Essentiellement sur le lieu de travail, oui, ça représente près de 10 000 repas par jour qui sont livrés, effectivement.
Voilà. On commande Internet et puis on est livré en combien de temps ?
On est livré en moins de 30 minutes ou alors on est carrément directement sur le lieu de travail puisque certaines entreprises ont choisi de nous implanter directement dans leur cafétéria.
Bien. Alors, les couverts. Il va bien falloir que vous bannissiez le plastique.
Alors, on a commencé déjà il y a 2 ans. Hein. En fait, nous, on n'a pas attendu la réunion d'hier pour se pencher sur le sujet.
La réunion hier avec Brune Poirson, la secrétaire d'État à l'écologie, à la transition écologique. Oui.
L'année dernière, on a déjà fait un grand pas. Effectivement, on a arrêté les couverts automatiques, on a arrêté les couverts en plastique. On ne donne que des couverts qui sont lavables, réutilisables. Avec certaines entreprises, on a arrêté les sacs. Donc, ce n'est que des sacs déjà consignés, en fait. En faisant ça, on a déjà coupé 20% de nos déchets, en poids de déchets. Oui. On a arrêté 70% du plastique, on est passé sur le carton. Donc on est au maximum de ce qu'on peut faire sur le sujet du recyclable.
Est-ce que vous pourriez être à 100% recyclable ?
On est à 100% recyclable, maintenant il faudrait savoir si on passe au réutilisable.
C'est plus recyclable, c'est réutilisable.
Et voilà, c'est l'étape d'après. Donc chez Food Chéri, effectivement, on se prépare, nous, au réutilisable.
Comment ?
Il y a déjà plein d'acteurs qui sont sur ce secteur. Hein. C'était les personnes qui étaient hier à la réunion avec Brune Poirson. C'était tous ces acteurs qui sont sur le réutilisable. Nous, on travaillait déjà avec eux. On était prêts. On a déjà vendu du réutilisable à des entreprises.
Il y a des couverts réutilisables.
Il y a des couverts qui sont réutilisables.
Il y a des bols réutilisables.
Ils proposent des bols qui sont réutilisables.
Mais des bols en quoi ?
Alors, c'est des bols en plastique.
En plastique.
Ça reste en plastique. Mais qui résiste à 300 lavages. Donc, en fait, on est quand même sur une solution qui est vraiment durable.
Oui, qui est durable. Mais c'est encore du plastique.
Mais
on n'a toujours pas trouvé un bol, je ne sais pas moi.
On n'a toujours pas trouvé un matériau qui soit...
Un matériau, voilà, toujours pas.
Ouais.
Donc ce bol réutilisable, c'est bien, c'est-à-dire que vous livrez avec le bol, mais là il faut une consigne. Système de consigne.
C'est ça le point qui est bloquant dans tout le... Alors nous, on est prêts, on a déjà travaillé avec une entreprise, on peut mettre en place une cafétéria zéro déchet. C'est possible. Mais c'est possible parce qu'on va tous les jours dans cette même entreprise. Là où ça devient compliqué... c'est quand vous imaginez le client lambda qui commande lundi puis qui commandera peut-être pas avant 3 semaines. Est-ce qu'il va garder son bol? Oui. Probablement non. Il va falloir qu'il le dépose quelque part et c'est là que ça devient compliqué.
Donc vous ferez payer la consigne.
Qui payera la consigne? Comment on fera payer la consigne?
Qui va payer la consigne?
Exactement, c'est le point difficile.
Est-ce que la consigne va être payée dans l'addition? Vous allez augmenter l'addition, je ne sais pas, de 1 ou 2 euros par exemple?
En fait, ce système de consigne, on a fait nos calculs, ça double à peu près le coût du packaging. Dans l'addition, en fait. Oui. Ça le double. Et ça enlève à peu près 5 points de marge dans une marge qui est déjà ric-rac, hein, oui. Sur le secteur de la livraison de repas. Donc, ce n'est pas évident, il faut le financer. Mais à mon avis, le point le plus difficile là-dedans, c'est qu'il va falloir que le consommateur il fasse un effort.
Oui.
Ça, c'est plus compliqué que de payer encore. Il va falloir qu'il prenne son vol, qu'il marche.
Ça, c'est du
et qu'il le dépose quelque part. Et ça, on a oublié ce que c'était et on le faisait il y a 30 ans. Alors, moi, je le faisais il y a 30 ans. Ouais. J'amenais les bouteilles en verre au supermarché, je récupérais les pièces. Ouais. Mais ça, on a oublié. Et ça, il va falloir le refaire.
Ça, il va falloir le refaire, évidemment. Julia Vernin, des décisions seront prises rapidement ou pas?
Le timing.
Que vous a dit Brune Poirson.
Oui, oui. Alors, elle a mis un bon timing, en fait. Je trouve ça plutôt ambitieux et c'est bien. Dans 3 mois, on y retourne. Et Franck Chéri, avec les autres acteurs, va présenter son plan de zéro déchet.
Bien.
Donc, c'est bien. Ça met un rythme.
On en reparlera alors dans 3 mois. Merci, Julia Vernin.
Merci
d'être venu nous voir ce matin. Vincent.
Bonjour.
Comment ça va, Vincent? Vous êtes chef d'entreprise dans le bâtiment, ça va?
Ah, ça va très 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 bien. Je suis très heureux de vous avoir et je voulais vous appeler pour vous féliciter et vous remercier. Vous remercier parce que vous avez bercé mes matinées depuis 14-15 ans.
Oui.
Et la deuxième chose, je vous remercie et vous dire aussi à quel point, je ne sais pas comment vous faites pour être aussi objectif et pour faire le tri de l'information. Et ça, je tenais à vous le dire parce que comment vous faites entre le vrai et le faux? Je vous dis ça parce que j'ai mon fils qui est à la Sorbonne et qui a traité pendant des mois avec un groupe d'étudiants le traitement de l'information. Et ils ont traité deux sujets diamétralement opposés, la Cour des comptes, qui dénonce plein de gabegies, d'abus, et qui donne plein de bonnes solutions, on en parle très très peu, et l'autre sujet, j'ai pensé à vous, c'était la sécurité routière. Et ils se sont aperçus que les médias, vous n'indiquiez que deux personnes, à l'époque c'était Emmanuel Barre et Chantal Périsson, et on s'aperçoit qu'ils disaient, mais contre-vérité sur contre-vérité. Et là, je me dis, mais comment vous faites, vous, pour entre le vrai et le faux? Vous faites un métier quand même vraiment pas facile. Et moi, je voulais vous remercier parce que, mine de rien, vous êtes, moi, je vous trouve en tout cas objectif. Parce que c'est comme là, la polémique là, entre la PHP et Raoul et le professeur Raoul.
Oui.
Comment vous faites le tri?
Moi, je vais vous dire, le rôle d'un journaliste, le premier rôle d'un journaliste, c'est de rapporter des faits. Il faut donc vérifier les faits. Qu'on ne peut pas rapporter n'importe quoi. Évidemment. Moi, je me méfie terriblement du commentaire. Aujourd'hui, malheureusement, on fait passer souvent le commentaire avant l'explication. Il y a un fait, Vincent. Nous, on va sur le terrain où on prend connaissance de ce fait. Qu'est-ce qu'on fait, justement? On vérifie. Le premier rôle d'un journaliste, c'est de vérifier l'information qu'on nous donne, qu'on reçoit. On vérifie l'information. Une fois qu'elle est vérifiée, on la donne, cette information.
Bien sûr.
Et puis on l'explique, cette information. Et après, on la commente. Le problème aujourd'hui, me semble-t-il, et notamment avec les réseaux sociaux, et notamment avec même la télévision en continu, c'est qu'on commente avant l'explication. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le commentaire tout de suite. Le commentaire, ça tue la réflexion. Vincent.
Bien sûr. Et le problème, c'est que lorsqu'ils ont étudié ça, ils se sont aperçus que même les soi-disant experts, ils avançaient des choses.
Les experts. Avez-vous vu tous ces experts partout, dans toutes les émissions, qui viennent de différents horizons et qui ont un avis sur tout, mais surtout, qui se prononcent sur tout, ils n'y connaissent rien. Rien, mais ils se prononcent sur tout. C'est insupportable, ça. Ça mérite un petit livre. D'ailleurs,
en tout cas, moi, j'ai apprécié que vous les remettiez un peu de temps en temps, que vous les confrontiez. De temps en temps, parce qu'en tout cas, moi, j'ai apprécié, vous continuez à bercer mes matinées. Voilà,
merci beaucoup. Merci, Vincent. Merci.
Belle
journée, Vincent. Merci. Au revoir. Merci. Il est 6h53. Dans un instant, Tony Morel avec un robot. Tiens.
Un robot qui va nous permettre de désinfecter les aéroports. Parce que on va voir pas mal de monde revenir dans les aéroports. Il va falloir rassurer tous ces passagers. Anthony Morel a la solution. Son robot, il vous dit tout dans un instant.
RMC. c'est déjà demain.
C'est déjà demain avec Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour Jean-Jacques.
Vous êtes venu avec un robot, évidemment.
Ah bah passion robot, vous savez bien.
Ça je sais, mais ça je sais. Alors ce robot-là rassure les voyageurs.
Oui.
Il rassure pas Naïs.
Non, je sais, elle n'a pas l'air de rassurer, effectivement. Mais si, c'est un robot mobile de décontamination. C'est que là, pour les aéroports, pour les départs en vacances, il faut quand même rassurer un petit peu les passagers pour qu'ils reviennent. Et donc, on voit arriver ce genre de machine qui a été notamment testée à l'aéroport de Nice et puis un peu partout en Europe, qui a été conçu pour traquer et éradiquer tout virus en suspension dans l'air ou qui se dépose sur une surface.
Et on le met où alors ?
Alors on le met, il va se balader en fait dans l'aéroport, il a des petites roulettes, hein, oui. il se balade un peu partout, il a des systèmes pour se repérer tout seul. Et au sommet, vous voyez, vous avez des longs tubes circulaires. Mmh. Et en fait, ces tubes, ils vont diffuser une lumière UVC, c'est une lumière, alors on ne l'allume pas, parce que c'est très dangereux pour les êtres humains. Il fonctionne dans les...
Oui,
dans,
les... Enfin, dans les aéroports, non, c'est mais, très dangereux pour les êtres humains.
Non, mais non. Il va fonctionner la nuit ou quand il y a pas de passagers dans une pièce, etc. On le fait fonctionner quand les passagers sont là. Et en fait, ces lumières bleutées, donc très très puissantes, vont détruire tous les agents pathogènes qu'elles rencontrent. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace qu'un nettoyage manuel. Quand vous nettoyez à la main, forcément, il y a des petits recoins que vous ratez. Là, tout ce qui entre dans le champ de vision de ce robot va être instantanément détruit. Ce sont des rayons UVC. On en parle beaucoup depuis le début de l'épidémie. C'est ce qu'on utilise pour nettoyer le matériel médical notamment. Et donc, on a aussi d'ailleurs ce genre de robot dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc.
D'accord. Et c'est une entreprise française ?
Alors, c'est pas une entreprise française. Non, c'est un robot danois. Voilà, il vient du Danemark exprès. Il a été.
Faites attention, Anaïs. Hein, parce que
normalement, il est conçu pour ne pas s'allumer quand il détecte la présence des humains. Et donc, dès qu'il voit un humain, de toute façon, il s'éteint. Parce que sinon, effectivement, Anaïs, c'est un peu.
C'est le normalement qui me vient un peu.
Normalement, d'accord. Bon,
ça va. De toute façon, Anaïs s'est fait barrière, moi, pour moi. Donc, je suis pas très inquiet.
Alors, vous avez aussi des robots, parce que vous avez des robots pour tout.
Pour tout, mais bien sûr.
Monsieur robot, pour remplacer une partie du personnel au sol.
Oui, alors on va le remplacer, attendez. On va pas licencier le personnel au sol. En fait, ils vont se servir de robots comme d'un avatar virtuel pour pouvoir s'approcher des passagers. Ce sont des petits robots de téléprésence, des petits humanoïdes. Vous avez la tête d'une hôtesse d'accueil, par exemple, à l'intérieur, qui va piloter ce robot à distance et qui va aller, par exemple, aller voir un passager qui a perdu son bagage, aller le renseigner, etc. Une autre piste qu'on va utiliser dans les aéroports, c'est d'avoir des bornes remplacées, vous savez, les bornes d'information tactile, tout le monde met ses doigts, c'est pas très propre, par des bornes vocales avec des assistants vocaux intelligents. Et donc vous donnez votre destination à voix haute et on va vous donner toutes les informations sur le terminal, le parking pour y accéder, etc., etc. Donc là encore, ce sont des technologies qui vont permettre, de mieux respecter les gestes barrières et de peut-être de rassurer les passagers.
Vous nous promettez un avenir.
Robotisé, les robots ils seront là. Enfin, de toute façon, ils seront là. Ça va falloir s'y habituer, c'est clair.
Bon, d'accord. Merci Anthony, Timothée. Timothée est à Dax dans les Landes. Bonjour Timothée.
Bonjour.
Oh là là, je vous entends mal, Timothée. Où êtes-vous ? Vous êtes caché quelque part ? Allô ?
J'habite dans les Landes, mais je suis sur mon lieu de travail à Mauléon-Lussard, dans les Pyrénées.
Je vous entends très, 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 très mal. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est très sourd. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, non. Bon. Vous regardez la télé, vous écoutez la radio le matin, Timothée ?
Je suis à la radio.
Vous êtes à la radio, Timothée. Timothée, vous êtes auditeur fidèle ?
Oui.
Ben, vous avez bien fait, parce que vous avez gagné. Machine à café et capsules qui vont avec, Timothée.
Super, je vous remercie.
Et je suis très heureux de vous les envoyer.
Merci à vous.
Merci Timothée.
C'est un régal de vous écouter.
Ben, c'est un plaisir, merci. Il est 6h59.